Portrait de femme de notre matrimoine, c'est tout de suite avec Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. C'est notre 16e portrait, je crois.
Oui, c'est ça.
C'est bonjour ça. Jacqueline.
Oui, bonjour Odile, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs.
Alors aujourd'hui, il s'agit de Marie-Claude Vaillant-Couturier.
Oui, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme du XXe siècle, Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui représente pour nous l'honneur de la France et une vie de résistance. Elle est née à Paris le 3 novembre 1912, Marie-Claude Vaugel, de son nom de jeune fille, surnommée Marivaux. Elle est la fille aînée d'une famille de trois enfants qui fait partie des bonnes familles bourgeoises éduquées. Sa mère, Colette de Brunhoff, est la sœur du créateur des histoires de Babar l'éléphant, les histoires qu'on lit aux enfants depuis de nombreuses années. Son père est éditeur chez Hachette. Marie-Claude a des professeurs particuliers, parle l'anglais et l'allemand. Son grand-père est d'origine allemande. En 1928, elle part en Allemagne pour parfaire sa connaissance de la langue. Là, elle découvre les ravages de la crise économique, du chômage, de la misère, qui est le terreau sur lequel prospère le système nazi. En 1932, elle fait une rencontre décisive en la période de Paul Vaillant-Couturier, journaliste, avocat, de 20 ans son aîné. C'est un humaniste et elle l'admire. En 1933, elle est envoyée en reportage pour la revue hebdomadaire Vue, fondée par son père. Là, elle assiste à un meeting d'Hitler, prend des photos des camps de Oranienburg et Dachau, où sont détenus les opposants allemands au régime nazi. Elle rencontre donc les premiers résistants communistes allemands à ce régime. Ce reportage est une tentative d'alerter le grand public sur les dangers du système nazi, entre parenthèses, ce que n'avaient pas vu Sartre et Simone de Beauvoir lorsqu'ils y sont allés à la même époque, comme nous l'avons vu précédemment. En 1936, triomphe en France le Front populaire, porteur d'avancées sociales importantes, telles les congés payés pour tous et toutes, ou la semaine de 40 heures, nous l'avons déjà dit. Au même moment, éclate en Espagne la guerre civile entre les républicains et les nationalistes dirigés par Franco. Les nazis allemands et italiens bombardent les villes espagnoles de Durango et Guernica. Guernica immortalisée par Picasso. Marie-Claude et Paul se marient en 1937, mais peu après, Paul décède brutalement. Marie-Claude décide alors d'adopter définitivement le nom de Marie-Claude Vaillant-Couturier, le nom du mari de sa jeunesse. En 1938, elle est en Espagne pour un reportage sur les brigades internationales qui luttent aux côtés des républicains. Elle travaille au journal L'Humanité, ayant adhéré au Parti communiste français, dans l'espoir de changer la société, de trouver une société plus juste. En octobre, elle est à Moscou, où elle apprécie les mesures en faveur des femmes. Droit à l'avortement, création des crèches, loi égalité hommes-femmes. Elle dirige aussi l'Union des jeunes filles de France, l'UJFF, qui milite contre le sexisme ambiant, pour l'émancipation des femmes, leur autonomie. Et elle fait ceci avec trois amis, Daniel Casanova, qui mourra du typhus en camp de concentration en 1943, Jeannette Vermersch et Claudine Chauma. En 1939, elle rencontre Pierre Villon, de son vrai nom Roger Gainsburger, veuf avec un fils Thomas que Marie-Claude adoptera, n'ayant elle-même pas eu d'enfant. Mais en septembre 1939, ayant pris sa source dans le rejet des avancées sociales du Front populaire, ce que nous avons précité, l'anticommunisme d'État progresse sous la pression des catégories possédantes, appuyée par la presse, l'agence Interfrance. Le journal L'Humanité est interdit et le Parti communiste est dissous. Et pire encore, en avril 1940, le décret Sérolles punit de mort tout responsable de propagande communiste. Menacée, Marie-Claude est obligée de se réfugier dans la clandestinité, de se cacher, de changer d'adresse et de nom pour sauver sa vie dans son propre pays. En 1940, l'armée allemande envahit la France. Les soldats sont place de l'Opéra. Elle se souvient, je cite, « Il y avait un flic, une vieille dame et moi quand les troupes sont arrivées par le boulevard des Italiens. » Je me rappelle que le flic, la vieille dame et moi, on pleurait. Pierre Villon est arrêté, incarcéré, mais il réussit à s'évader 2 ans plus tard, en 1942. Marie-Claude entre dans la résistance. Le 9 février 1942, elle est arrêtée, emprisonnée à la Santé, où elle apprend à communiquer via la tuyauterie avec ses voisines, telle Marie-Josée Chambard de Lauve. Il y a une grande solidarité entre les prisonnières. Elle dit « la peine des unes est la peine de toutes ». Le 24 janvier 1943, elle fait partie du convoi des 230 femmes, dit convoi des 31 000, ainsi nommé d'après les numéros qui leur seront tatoués à leur arrivée à Auschwitz, 3 jours après. Parmi ces 230 femmes, il y a 118 ouvrières et paysannes, 57 employés, 27 intellectuels, c'est-à-dire des enseignantes, des chercheuses, des professions libérales, et 28 lycéennes. La plus jeune a 17 ans, la plus âgée 69. 119 d'entre elles sont communistes ou proches. 12 appartiennent à des réseaux de résistance gaullistes. 51 ont été arrêtées pour divers actes de résistance comme faire du secrétariat par exemple. Birkenau est un camp d'Auschwitz près de Cracovie en Pologne. Il comprend 4 fours crématoires, 4 chambres à gaz. Dans ce camp, on leur rase la tête et le pubis, on leur tatoue un numéro matricule sur l'avant-bras gauche, on les badigeonne avec un torchon imbibé de pétrole, on leur donne une veste marquée d'un triangle rouge, le signe des politiques, entre guillemets. Marie-Claude a le matricule 31-685. La mortalité dans les blocs est effroyable. Le 3 août, des 230 du convoi de janvier, il ne reste que 57 survivantes. La mortalité est provoquée par la saleté, le froid, les coups de gourdin, la faim. On meurt de néphrite, de pneumonie, de dysenterie, du typhus et d'épuisement. Marie-Claude, elle, dit, j'ouvre les guillemets, « Une des raisons qui fait de moi une survivante, c'est que moi, je comprenais l'allemand. J'ai servi d'interprète au chef de bloc, puis à l'infirmerie, le revier, revir en allemand, qui veut dire quartier. » Contrée, quartier, district. Daniel Casanova meurt du typhus. Marie-Claude est touchée. Elle est malade pendant 3 mois et demi. Le 2 août 1944, elle est transférée à l'ouest au camp de Ravensbrück avec 49 survivantes de son groupe. Matricule 47-987. C'était un camp dur, mais un camp de travail. Marie-Claude est dans le bloc 32, dit « Nacht und Nebel »,« nuit et brouillard », dans le vocabulaire nazi. Cela signifie « des gens destinés à disparaître sans laisser de traces, comme le nain Alberich dans l'opéra de Wagner, L'Or du Rhin. Elle retrouve Marie-Jo Chambard, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle et aussi Martha Desrumaux, qui lui sera une grande aide en dépit de la différence de milieu social. Marie-Claude est une bourgeoise éduquée. Martha, on l'a vu dans un portrait précédent, étant toute petite sans soutien familial, a dû travailler dès l'âge de 9 ans pour survivre. Alors, la pression des Alliés sur Berlin se fait sentir en mars 1945. Le 2 avril, 300 Françaises sont libérées grâce à l'intervention de la Croix-Rouge et à un accord entre Himmler et Bernadotte. Marie-Claude décide cependant de rester avec les malades pour essayer toujours de les sauver ou de les soulager. Les soldats de l'armée rouge apparaissent le 30 avril pour les délivrer. Marie-Claude pense déjà à témoigner quand elle parcourt le camp avec un photographe à cette époque. Enfin, le 25 juin 1945, Marie-Claude retrouve à Paris son compagnon, devenu un dirigeant de la résistance. Elle poursuit son combat politique, participe à l'Assemblée constituante. Elle participe aussi au congrès de l'Union des femmes françaises UFF, ex Femme solidaire, devenue Femme solidaire en 1998, le mouvement. Elle sera par la suite plusieurs fois députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans les organisations féministes, antifascistes et internationales. Le 20 décembre 1945, elle est décorée de la Légion d'honneur. Alors, le 26 janvier 1946, Marie-Claude est appelée à témoigner au tribunal de Nuremberg. C'est le tribunal qui a été institué pour juger les responsables nazis. C'est la première femme qui s'exprime, parlant lentement pour les traducteurs et devant 21 accusés et des juges internationaux. Je cite ce qu'elle dit, une partie de ce qu'elle dit. Je me dis, je parle pour toutes celles qui ne sont plus. Et j'évoque les expériences sur les cobayes humains à Auschwitz, les stérilisations à Ravensbrück, les microbes inoculés aux jeunes polonaises. Je rappelle les exterminations massives par chambre à gaz ou piqûres mortelles. Je décris le Jugendlager où vieilles et malades subissent l'appel durant des heures, dans la neige et le froid, à moitié nues, sans nourriture, jusqu'à ce que souvent la mort s'en suive. Elle dévisage longuement Göring, Hess et tous ses bourreaux. L'avocat d'un des nazis tente de mettre en doute les sévices subis en lui trouvant bonne mine, et elle doit même là justifier son état de santé. Et elle est aussi impressionnante de beauté. Elle regrette aussi que les groupes capitalistes qui ont soutenu Hitler ne figurent pas parmi les accusés. C'est dans la foulée du tribunal de Nuremberg que sera créé plus tard le tribunal pénal international de La Haye, en 1993, pour juger les crimes de guerre en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Elle voue le reste de son existence à la justice sociale et à la mémoire de ses camarades mortes en déportation, et elle fait une carrière politique remarquable pour une femme à l'époque. À l'Assemblée, elle est particulièrement sensible aux questions de l'enfance. Elle lance aussi une pétition pour le désarmement nucléaire, l'interdiction absolue de l'arme atomique. Elle disait volontiers qu'elle était revenue féministe des camps. Un féminisme qui revendique d'abord l'accès à l'enseignement, aux carrières professionnelles, à la culture, l'égalité des droits et l'égalité salariale. Elle intervient le 21 novembre 1972 en faveur d'un renforcement des sanctions à l'égard des employeurs ne respectant pas l'égalité salariale entre hommes et femmes. C'est un sujet qui demeure singulièrement d'actualité en 2021. Elle témoigne au procès de Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, en 1987. Elle a 75 ans. Mais dans son travail de mémoire, elle est obligée de rétablir des vérités parfois contestées. Elle écrit, je cite, « C'est d'abord l'ignorance des faits et des responsabilités qui donne aux thèses négationnistes la possibilité d'être crues. Le fait d'avoir gazé des millions de gens, depuis les vieillards jusqu'aux bébés, est tellement monstrueux qu'il n'est après tout pas très étonnant que des gens qui n'ont pas vécu cette période ou ne s'y sont pas intéressés de près aient parfois du mal à le croire. » Lors de la création de la Fondation pour la mémoire de la déportation en 1990, elle en a été désignée unanimement présidente, puis présidente d'honneur jusqu'à son décès. En 1995, Geneviève de Gaulle lui remettra les insignes de commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur. Elle s'éteint l'année suivante, en décembre 1996, à 84 ans, faisant ce dernier constat. Le racisme, la xénophobie et la volonté d'exclusion trouvent facilement un terrain favorable, surtout en période de crise. Les droits de l'homme, de la femme et des peuples sont à défendre en permanence. L'histoire prouve qu'aucun peuple n'est à l'abri d'un régime totalitaire. Alors, en conclusion, je dirais que son entrée au Panthéon est demandée par de nombreuses personnalités, mais pour l'instant, ce n'est pas elle, ni Martha Desrumaux, qui sont choisies pour obtenir, à titre posthume, la reconnaissance officielle suprême de la patrie et aussi de leurs semblables.
Jacqueline Engrave, merci et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau portrait de femme.
Oui, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.